Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à toutes et à tous. C'était hier, l'OMS et les défenseurs de la santé publique du monde entier célébraient la Journée mondiale sans tabac, une journée qui avait pour thème principal la protection des jeunes. Car face aux manipulations de l'industrie du tabac, il est fondamental de s'intéresser, de protéger ce public vulnérable qui représente un marché émergent. Et oui, les représentants de l'industrie du tabac savent pertinemment que toute personne commençant à fumer avant l'âge de 20 ans est plus susceptible de devenir dépendante et être dans l'incapacité de contrôler son tabagisme en vieillissant. L'industrie du tabac vend donc délibérément une dépendance mortelle aux jeunes en rendant ses produits attrayants, en étant présent sur les réseaux sociaux, tout en contournant la réglementation traditionnelle sur la publicité et la promotion du tabac. La stratégie marketing et commerciale est excellente, sauf qu'on parle là d'un produit, le tabac, qui est chaque année à l'origine de près de 8 millions de décès dans le monde. Certains parlent de cynisme. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de fatalité, on peut arrêter de fumer. Alors comment? Quelles sont les méthodes, les astuces? Faut-il s'inquiéter en cas de rechute? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, le docteur Marion Adler, tabacologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart dans les Hauts-de-Seine, et membre du comité scientifique et du conseil d'administration de la Société francophone de tabacologie. Nous serons également en ligne avec le docteur Georges Ouedraogo, pneumologue, tabacologue au service de pneumologie du CHU Yalgado Ouedraogo au Burkina Faso. Et puis, bien comme tous les lundis, nous retrouverons la séance d'activité physique anti-sédentarité avec le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo, pour souffler, pour respirer, pourquoi pas évacuer les cigarettes de la journée.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Marion Adler, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Selon un rapport de l'OMS de décembre 2019, le nombre de personnes consommant du tabac sur la planète a, pour la première fois, commencé à diminuer. Ce chiffre diminue également pour les hommes. Comment interprétez-vous cette donnée? Est-ce que c'est encourageant ou est-ce que c'est trompeur, tant il reste de fumeurs dans le monde, finalement? Plus de 1,33 milliard.
Alors bien sûr, c'est toujours trop, mais je pense que c'est très encourageant de voir que les politiques de santé publique, et entre autres ce que font les gouvernements pour aider les fumeurs à arrêter, pour les soutenir, pour rembourser les traitements d'aide à l'arrêt du tabac, permettent évidemment une diminution du nombre de fumeurs pour que les gens prennent aussi conscience, sachent que c'est quelque chose de dangereux et puis évitent évidemment d'intoxiquer les gens autour d'eux. C'est important aussi de savoir que probablement l'arrivée de la vape ou cigarette électronique qui aide énormément de gens à arrêter de fumer a peut-être permis aussi dans certains pays, une nette diminution du tabagisme.
Alors, on va revenir évidemment sur la vape, hein. C'est un phénomène de mode, un phénomène qui permet d'arrêter de fumer. Mais tout d'abord, voilà. Comment expliquez-vous cette différence entre les hommes et les femmes ces dernières années? Les femmes ont été 100 millions de moins à fumer, alors que les hommes, eux, continuaient. C'est depuis cette année qu'ils sont moins nombreux à fumer, alors qu'ils représentent 82% des fumeurs dans le monde, hein.
Oui, en fait, ça dépend un petit peu de probablement de chaque année, puis les chiffres vont changer d'une année sur l'autre. Je pense qu'il n'y a pas tellement de différence en soi, c'est plutôt des différences individuelles. Il y a des gens qui vont être plus rapidement dépendants et d'autres moins rapidement, et ça, on ne peut pas le savoir, ça dépend de nos gènes. Donc, le mieux, c'est de ne pas évidemment commencer, mais quand on a commencé à fumer, on n'est pas responsable du nombre de cigarettes qu'on va fumer, par exemple, dans la journée. Ça peut être plus ou moins en fonction des gènes qu'on a. On peut fumer un paquet par jour ou deux paquets par jour en fonction du nombre de récepteurs que l'on a dans le cerveau à la nicotine. Et en fonction de ça, on va avoir besoin de prendre un paquet de cigarettes ou deux paquets de cigarettes. Donc ça dépend aussi de ce qu'on a comme patrimoine génétique et on n'est pas trop responsable de ça. C'est comme une maladie chronique dans laquelle on tombe, malheureusement, et à un moment donné, on est obligé de fumer tous les jours parce que la dépendance à la cigarette est extrêmement puissante.
À la nicotine notamment. Alors, on va revenir sur cette journée mondiale sans tabac, donc qui avait lieu hier. Avant cela, un petit point sur la pandémie de Covid-19 que nous traversons actuellement. Quel est ou quel a été l'impact du coronavirus sur votre service de tabacologie ?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a plus fait de consultations de face à face, bien sûr, parce qu'on était en confinement tous. Donc les consultations, moi, je les faisais par téléphone pour continuer à soutenir mes patients et à avancer pour eux, pour qu'ils puissent avancer dans leur liberté par rapport à la cigarette, dans leur libération, dans leur sevrage tabagique. Donc on a pu continuer toutes les consultations par téléphone, c'est ce que j'ai fait.
Pas d'impact sur
Et
le suivi des
autrement,
patients, notamment, non?
alors par rapport à ça, non, parce qu'on s'est tout de suite adapté à la situation et on a changé en consultation par téléphone. J'ai même fait des premières consultations avec des gens que je n'avais jamais vus par téléphone. Finalement, ça se fait en téléconsultation ou par téléphone. Ça peut se faire très très bien. C'est vraiment des suivis qui marchent très bien par téléphone. Donc ça, c'est plutôt avantageux. Après, il y a aussi les patients qu'on allait voir dans les services, hein, qui étaient hospitalisés. Donc ça, évidemment, on continuait notre suivi de liaison dans l'hôpital. Ça, on a continué avec mes collègues. Maintenant, le Covid en lui-même, quelqu'un qui fume va avoir un risque de faire des complications graves respiratoires plus importantes ou cardiovasculaires plus importantes parce qu'il a déjà un système respiratoire ou cardiovasculaire qui est abîmé par la cigarette. Donc c'est important de savoir que ce n'est pas du tout protecteur, c'est bien au contraire quelque chose qui peut aggraver les signes de gravité de la maladie Covid.
Parce qu'on a entendu dire à un moment que la nicotine pouvait protéger contre le Covid-19, ce n'est pas le cas.
Alors ça, c'est possible, mais il y a des nécessités de faire des études scientifiques pour être sûr que ce soit vrai ou pas. Pour l'instant, c'est une supposition, on n'a absolument pas les preuves scientifiques, donc je préfère rester très très prudente. Mais les études montreront si oui ou non la nicotine en elle-même est protecteur ou pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument fumer, surtout pas, parce que le tabac, de toutes les façons, est cause de toutes les maladies possibles, cardiovasculaires, respiratoires, mais tous les cancers possibles sont influencés en négatif par le tabac, hein. Le tabac est cause de beaucoup de cancers, pas seulement celui du poumon. Donc, de toutes les façons, fumer, c'est toxique pour la santé. Maintenant, est-ce que ce serait la nicotine qui, elle, n'est pas toxique, mais addictive? Est-ce que la nicotine serait un facteur protecteur? On ne sait pas encore. Il faut attendre les résultats des études, mais ça voudrait dire aux gens qui fument, surtout, soyez encouragés à arrêter avec des substituts nicotiniques ou en prenant des vapes avec de la nicotine, mais surtout, arrêtez le tabac qui, lui, est cause de maladies graves à cause de la fumée de tabac. Voilà, il faut bien distinguer la fumée et la nicotine, vous comprenez? La nicotine, c'est addictif, c'est ce qu'il y a dans la fumée de tabac, dans la cigarette quand on l'aspire, et c'est pour ça qu'on fume, mais ce qui est toxique, c'est la fumée. Donc
La
toute
fumée et
fumée,
tous les produits
combustion est toxique.
chimiques que l'on retrouve évidemment dans le tabac.
Oui, je dois dire que la combustion en elle-même est toxique, hein. Si vous respirez 20 fois par jour un feu de cheminée, vous avez les mêmes risques de cancer, de maladies cardiovasculaires et de problèmes respiratoires. Donc la fumée en elle-même, qui est ou pas des produits chimiques, c'est-à-dire vous pouvez prendre la cigarette la plus sans produits chimiques que vous voulez ou le cigare sans produits chimiques, de toutes les façons, c'est toujours aussi toxique, c'est même très toxique. C'est la fumée qui est toxique. Qu'il y ait ou pas des substances chimiques, c'est toxique. Des substances chimiques, si vous voulez, ce qu'elles vont faire, ce qu'elles vont changer, c'est qu'elles vont augmenter la rapidité d'être dépendant à la cigarette, c'est-à-dire qu'elles vont favoriser la dépendance chez les jeunes qui vont commencer à fumer. Donc c'est plutôt ça, les substances chimiques, mais ce n'est la toxicité, c'est vraiment la fumée.
Ce moment très particulier qui a été le confinement, a-t-il favorisé l'arrêt du tabac ou au contraire est-ce qu'il était un facteur favorisant la reprise du tabac ou le début du tabac?
Alors,
Avec
encore
le
une fois, c'est
stress,
très.
l'anxiété.
Oui, c'est très dépendant de chacun. Vous voyez, il y a des gens qui, au contraire, comme ils étaient dans des moments de confinement et par rapport à cette pandémie qui est un risque pour la santé, se sont dit, bah, écoutez, là maintenant, c'est peut-être le moment de m'occuper de ma santé. Et la première chose que je vais faire, c'est l'arrêt du tabac pour permettre justement de, sur ce facteur, je peux agir. Donc, je vais permettre d'améliorer ma santé de cette manière-là pour avoir moins de risques aussi, étant donné qu'il y a déjà ce risque viral extérieur. Puis, il y a d'autres gens qui ont été peut-être plus stressés et plus gênés d'être en confinement. Et dans ces moments-là, peut-être qu'ils ont augmenté leur consommation. Ça dépend un petit peu de chacun.
Alors, venons-en à la journée mondiale sans tabac d'hier, une journée qui avait pour thème principal la protection donc des jeunes, puisque les moins de 20 ans représentent un marché émergent pour l'industrie du tabac.
Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions.
On ne peut pas les envoyer dans une usine de retraitement?
Mais non, 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 trop cher.
Ou faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement.
Non mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures.
Et les embarquer vers un pays moins regardant.
Non mais c'est tout. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace?
Et si on les faisait avaler aux gens?
Avaler? Mais c'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte.
Non, 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 à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups.
Mais ça se présenterait comment, votre truc, là?
Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être.
Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette.
Et ça va nous coûter combien, votre affaire?
Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces merdes.
Une publicité réalisée par Yvan Attal en 2010 qui montre bien le cynisme de l'industrie du tabac. Alors la dépendance des jeunes n'est pas un sujet nouveau, mais c'est un défi pour les responsables de la lutte anti-tabac, docteur Adler.
Oui, en effet, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que les premiers qui sont visés, évidemment, sont les jeunes, parce que quand un jeune commence à fumer, il en prend pour des dizaines d'années. À partir du moment où il est dépendant, et ça vient très très vite, il en prend tous les jours pour des dizaines d'années, sauf s'il se réveille assez tôt pour arrêter de fumer et pour se dire « bon bah, il faudrait peut-être que j'arrête cette dépendance qui finalement m'empoisonne la santé et me coûte très cher ». Donc cette publicité est excellente parce que ça montre un petit peu ce qu'il y a déjà quand on aspire sur la fumée, ce que l'on peut avaler comme substance ou inhaler comme substance toxique. Donc c'est excellent. Maintenant, ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'en effet, la nicotine est la source de cette dépendance, mais ce n'est pas toxique en soi. En revanche, évidemment, quand on inhale de la fumée, on inhale des substances de rejet de la fumée, c'est-à-dire les substances qui sont toxiques comme le goudron, le monoxyde de carbone, les substances cancérigènes et tout ce dont vous avez entendu parler dans cette publicité qui est en effet excellente. Donc, c'est la prise de conscience qui est importante chez les jeunes et en effet, il faut aider les jeunes à ne pas commencer le tabac. C'est pas toujours simple et en effet, c'est l'entraînement des pères qui souvent font que ils vont prendre des risques, ils vont avoir envie de faire comme les copains et malheureusement tomber dans ces pièges.
Alors ça, on a beaucoup de questions à ce niveau-là, sur Facebook, oui. Notamment Djibril qui nous écrit de Guinée. Qu'est-ce qui rend les gens dépendants à la cigarette? Alors on a bien compris que c'était la nicotine, mais pourquoi commence-t-il à fumer, se demande Djibril. Et puis Bada Massi au Niger qui dit « Je suis fumeur ». Pourquoi beaucoup de gens aiment fumer après le repas? Qu'est-ce qu'on peut leur dire typiquement?
C'est justement cette histoire de nicotine qui ouvre des récepteurs à la nicotine dans notre cerveau. On a des récepteurs à toutes les drogues, entre autres à la nicotine. Si on les stimule pas, ils restent fermés, ils nous foutent la paix. Si on commence à les stimuler avec la cigarette, ils s'ouvrent. Et à ce moment-là, on ne peut plus se passer de remplir ces récepteurs quotidiennement parce que la nicotine va venir sur ces récepteurs, stimuler les substances plaisir ou bien-être dans le cerveau, et à partir de ce moment-là, les gens se sentent en inconfort quand ils n'ont pas cette stimulation. Alors que notre cerveau est tout à fait capable de sécréter ces substances bien-être, ces substances plaisir, sans avoir besoin de cette stimulation par la nicotine. Mais quand on a commencé à être dépendant, on n'arrive plus. Le cerveau oublie, devient un peu feignant, et oublie de sécréter tout seul ces substances, et a besoin justement de ce shoot de cigarette pour sécréter ces substances. Et là, quand on se sent après le déjeuner en inconfort, on prend une cigarette. Il y a certains moments comme ça clés dans la journée qui peuvent être remplacés très très facilement par un apport de nicotine autre, comme une gomme à la nicotine, une pastille à la nicotine, comme un patch et des pastilles. Vous voyez, c'est des manières d'arrêter qui sont assez simples.
Comment expliquez-vous cette sorte de tolérance vis-à-vis de l'industrie du tabac qui contourne donc la réglementation traditionnelle sur la publicité et la promotion du tabac en étant sur les réseaux sociaux, comme je le disais dans le sommaire? Comment lutter contre tout cela finalement? Cette toute-puissance de l'industrie du tabac.
Malheureusement, vous savez que l'argent permet beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas savoir comment exactement ce serait possible d'éviter qu'ils fassent toutes ces choses qui ne sont pas très, très légales. Mais malheureusement, c'est le gain. C'est toujours comme ça. Donc, moi, je m'occupe vraiment de la santé. Et c'est important pour moi qu'il y ait des gens qui s'occupent de protéger avec des politiques de santé publique. Le public, c'est ce qui a été fait, vous savez, un petit peu aussi quand on a mis les lois de ne plus fumer dans les restaurants ou dans les lieux publics, parce que ça protège, et c'est très important, les autres autour du tabagisme passif. Entre autres, les restaurateurs, les garçons de restaurants qui sont dans le restaurant et qui sont exposés à cette fumée des consommateurs dans le restaurant. Donc, c'était important dans les lieux publics de permettre ces politiques qui sont maintenant de plus en plus dans beaucoup de pays. heureusement, et pas encore dans tous les pays malheureusement, mais je pense qu'il faut que ces politiques-là vraiment évoluent et que les gouvernements s'en saisissent. Après, il y a des intérêts financiers, bien sûr, qui sont des fois contraires.
Les politiques de prix, est-ce que c'est efficace? On lit qu'une hausse de 10% du prix engendre une diminution de la consommation d'environ 4% dans les pays riches. Est-ce que c'est vraiment efficace? Parce que finalement, pour l'industrie du tabac, les bénéfices sont toujours là.
Oui, les bénéfices sont là, mais c'est pas. En fait, c'est pour.
Mais pour
chacun...
la santé publique, c'est mieux.
Ah oui, pour la santé publique, les vraies hausses de prix ont montré dans les études de santé publique qu'il y a eu un vrai bénéfice. C'est-à-dire que les gens se décident à un moment donné en disant « je ne peux pas quand même dépenser 350 euros pour 20 cigarettes par jour pour fumer ». Donc là, ça commence à être beaucoup, près de 7000 euros par an. C'est quand même énorme. Donc il y a des gens qui vont très rapidement se décider à arrêter de fumer quand il y a une augmentation des prix. Donc ça aide ceux qui sont un peu indécis à vraiment arrêter. Donc c'est important dans certains pays que les cigarettes, il y ait des hausses de prix des cigarettes, bien sûr, mais que ces hausses de prix permettent une vraie prise en charge des fumeurs pour l'arrêt du tabac. Donc si les taxations permettent d'être récupérées par le ministère de la Santé, par exemple, pour le remboursement des traitements d'aide à l'arrêt du tabac et des consultations d'aide à l'arrêt du tabac, ça c'est très important, c'est ce qui a été fait en France et ça a énormément aidé les gens.
Vous écoutez Santé sur RFI.
Et oui, vous écoutez Priorité Santé sur RFI, tout à fait. Aujourd'hui, nous parlons de la journée mondiale sans tabac qui avait lieu hier avec notre invité, le docteur Marion Adler, tabacologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, en banlieue parisienne. Docteur Marion Adler, nous allons revenir sur les effets du tabac, évidemment sur la santé. Mais avant cela, nous allons accueillir un premier auditeur. Il s'agit de Camardi qui nous appelle de Moroni aux Comores. Bonjour Camardi.
Bonjour Igor.
Nous vous écoutons.
Moi, je voulais savoir comment je dois faire pour arrêter parce que j'ai commencé quand j'avais l'âge de 16 ans, en 2004. Et au fur et à mesure, les années sont passées et là, je deviens accro aux cigarettes. Et des fois, ça me fait du mal. Des fois, je gaspille beaucoup d'argent à cause de ça.
Vous fumez combien de paquets de cigarettes par jour, Camardi?
Deux paquets par jour.
Ouh, ça fait beaucoup, effectivement. Et aujourd'hui, vous avez 32 ans, c'est bien ça? Donc, ça fait 16 ans que vous fumez?
Oui, 16 ans que je fume, j'ai 32 ans.
Vous n'avez jamais arrêté?
J'avais essayé d'arrêter. J'ai fait une semaine parce que j'étais malade et après, j'ai recommencé encore à fumer. J'ai pas la force d'arrêter.
Ah, pas la force. Mais alors, vous souhaitez avoir des conseils, c'est ça, du coup?
Oui, j'aimerais avoir des conseils parce que à ma santé, je vois que ça me fait du mal, ça m'affaiblit.
Qu'est-ce que vous ressentez, par exemple?
Des fois, j'ai la colère si je ne trouve pas de cigarette. Il y a aussi un jour, je me suis levé le matin, je voulais aller faire mes petits besoins. Et quand je sortais du couloir, c'est comme si mes poumons ne fonctionnaient pas. J'étais là, tout mon corps avait refusé. J'avais tellement mal dans mes poumons. Je ne savais pas comment dire ça, mais je n'arrive pas à respirer.
Eh bien, écoutez, le docteur Marion Adler est là pour vous donner quelques conseils. Que peut-on dire à Camardi, docteur Adler?
Camardi, déjà, bravo de vouloir arrêter de fumer. C'est très important. C'est le premier geste qu'il faut pour arrêter de fumer et c'est le plus important. C'est la décision. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez déjà fait une semaine, donc vous pouvez faire plus, ça c'est sûr, et vous pouvez déjà faire une semaine. Maintenant, ce qui est très important de savoir, c'est que vous êtes très, très, très dépendant de la nicotine. C'est pour ça que vous êtes obligé de fumer 2 paquets par jour, qui vous coûte de l'argent et qui vous abîme la santé. Donc, pour arrêter de fumer, il vous faudrait une grande dose de nicotine pour vous aider à ne pas avoir besoin de prendre votre cigarette et vous sentir sans la colère dont vous parliez tout à l'heure. Donc pour ça, moi ce que je donnerais comme conseil clairement en pratique, c'est de vous fournir 2 gros patchs de nicotine, hein, parce que vous fumez 2 paquets. Donc 1 gros patch, ça correspond à peu près à 1 paquet. Mais 2 gros patchs de nicotine, comme les Nicorette Skin 25 mg ou les Nicopatch 21 mg, peu importe la marque, ce que vous trouvez sur place, vous collez les 2 patchs et en plus de prendre des gommes ou des pastilles à la nicotine. Il y a des gommes à la nicotine qui sont maintenant aromatisées à la menthe ou aux fruits qui sont très bonnes et qui sont tout à fait supportables. Et à chaque envie de fumer, vous pouvez prendre une gomme Vous pouvez prendre une pastille à la nicotine qui vous calmera l'envie de fumer de manière agréable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut fumer avec des patchs. Ce n'est pas dangereux en soi de fumer avec des patchs. Ce qui est dangereux, c'est toujours la cigarette. Pas plus ou moins avec des patchs. Et en tout cas, avec une bonne dose de nicotine comme ça et des pastilles, des gommes associées, vous pouvez parfaitement commencer à arrêter de fumer tranquillement à votre rythme. Et puis avancer au fur et à mesure vers zéro cigarette. Après, il y a des sites qui peuvent vous permettre aussi d'avoir des conseils pour continuer votre sevrage. Mais surtout, surtout, ne vous découragez pas, c'est tout à fait faisable. Et avec un soutien avec des traitements, il peut y avoir aussi le traitement médicamenteux, hein. Il y a la varenicline qui marche très bien aussi, qui peut être une aide dans votre cas parce que vous êtes très, très dépendant. Et puis, si vous n'y arrivez pas suffisamment avec tout ça, il peut aussi y avoir la cigarette électronique, la vape, qui peut vous aider, qui ne contient pas de monoxyde de carbone ni de particules parce qu'il n'y a pas de combustion. La vape, c'est, il faut mettre de la nicotine dedans, bien sûr, pour vous aider à calmer cette envie de nicotine, de la cigarette. Et puis la vape, ça contient, si vous voulez, du propylène glycol qui va vaporiser la nicotine. Donc c'est à 95% moins dangereux que la cigarette. Mais vraiment, suivant ce que vous trouvez dans votre pays, il faut absolument vous faire aider parce que vous êtes très, très, très dépendant de la nicotine. C'est comme quand on a une fracture. Moi, je dis toujours à mes patients, si vous avez une fracture, vous n'imaginez pas de réparer la fracture sans béquille et sans plâtre. Là, c'est pareil, vous avez des traitements à votre disposition qui existent maintenant. Il faut absolument vous en servir pour que ce soit facile, en douceur, et que vous puissiez aller à votre rythme.
Docteur Marion Adler, faut-il s'inquiéter en cas de rechute ? Beaucoup de fumeurs culpabilisent dès qu'ils reprennent. Est-ce que c'est...
Surtout, il ne faut pas se culpabiliser.
Il faut, oui, c'est ça.
C'est une très bonne question, ce que vous dites. Parce que la culpabilité, quand on a une maladie chronique comme le diabète et que tout d'un coup, on réaugmente son sucre, on ne va pas culpabiliser parce qu'on réaugmente son sucre. Alors, c'est la même chose. Ça, c'est une maladie chronique, la dépendance à la nicotine. La dépendance à la cigarette, c'est une maladie chronique. Il faut absolument savoir qu'on peut avoir des moments où on guérit. Il peut y avoir des rechutes. Il ne faut surtout pas se décourager. Dans ces cas-là, il faut se dire, voilà, j'ai déjà fait une semaine. C'est ce que je disais tout à l'heure à notre auditeur. J'ai déjà fait un mois. Donc, il faut absolument que je reprenne le plus vite possible. Puis surtout, reprendre le plus vite possible en se disant, j'ai eu un accident de parcours. C'est pas très grave. Ça a duré 2 jours. Maintenant, je reprends tout de suite le sevrage pour continuer. Et c'est mon élan. Je continue dans le même élan. Je dis toujours à mes patients, il faut dédramatiser les rechutes, mais surtout reprendre tout de suite le sevrage parce que c'est beaucoup plus facile quand on reprend rapidement.
Camardi, a-t-on répondu correctement à votre question ? Est-ce que ça vous a aidé, tous ces conseils ?
Oui, ça m'a aidé, mais il faut dire les choses correctement parce que ici, chez nous, il n'y a pas de spécialistes à propos de ça, à propos de nous donner des conseils à l'hôpital.
Mais c'est pour ça que le docteur Adler vous en a donné ici en direct oui. sur RFI.
Oui, je comprends très bien, mais les choses qu'elle a tout dit, il m'a expliqué, je ne suis pas sûr que je peux le trouver ici. Que ce soit
les Nicorettes, les patchs, la vapote.
Ouais, c'est ça.
Alors la vapote, je comprends que ça soit compliqué, mais les patchs, vous devriez peut-être en trouver à Morodi. Ou des gommes.
D'accord.
Il faut aller voir avec les pharmacies.
Des chewing-gums.
Des chewing-gums à la nicotine, tout à fait, ce qu'on appelle les Nicorettes. Allez dans une pharmacie. Les pharmaciens sont là pour vous conseiller.
Absolument.
Allez, merci beaucoup, Camardi. On vous souhaite une très bonne journée. Ne vous découragez pas et rendez-vous au plus vite dans une pharmacie. Docteur Adler, quelle est la dépendance ? On sait que le tabac provoque plusieurs dépendances, dépendances physiques, dépendances psychologiques, dépendances comportementales. Quelle est la plus difficile à se débarrasser, finalement ?
Écoutez, la première chose, c'est de ne pas être en manque physique. Parce que si vous êtes en manque physique, vous allez avoir du mal à gérer votre comportement. Une fois que vous n'êtes plus en manque physique, vous allez réapprendre au fur et à mesure, en changeant votre comportement, ça va être plus simple. C'est important d'abord, justement, d'avoir la bonne dose de nicotine et après, au fur et à mesure, réapprendre la vie sans tabac en, par exemple, prenant une gomme à nicotine au moment où on a fini le repas, en prenant une pastille à nicotine quand on est au téléphone et qu'on a l'habitude de prendre une cigarette, à la place, on prend une gomme. Quand on est avec des amis qui fument, peut-être justement prendre l'inhaleur qui est un petit peu comme... dans lequel on aspire, qui permet un petit peu de refaire le geste, ou au contraire prendre un chewing-gum parce qu'on n'a pas envie de refaire le geste, ça dépend vraiment de chacun. Ça peut être aussi justement pour gérer le comportement, c'est plus facile pour certains avec une cigarette électronique, avec une vape. Maintenant, ça dépend de chacun, mais c'est important de savoir qu'est-ce qui va m'aider et de surtout prendre toutes les aides possibles pour que physiquement je ne sois pas en manque, et à ce moment-là, la dépendance comportementale est beaucoup plus facile à gérer.
Il faut aussi peut-être rappeler tous les dégâts que provoque le tabac, hein, au niveau des cancers, au niveau de la fertilité, de la fécondité, des grossesses, des dents. Il provoque des maladies comme le diabète. Les conséquences du tabac sont dramatiques et on a tendance à se focaliser sur certaines pathologies, mais finalement, il y a tout un tas de pathologies qui en découlent.
Bien sûr, et c'est vrai que ça, en général, les fumeurs le savent. Ils veulent simplement...
Mais ils sont dans le déni.
Ben, c'est normal, on ne peut pas s'angoisser en permanence quand on fume, donc c'est un petit peu normal. Mais ce qu'ils ne savent pas souvent, c'est qu'on peut facilement arrêter quand on est bien aidé et bien accompagné. Et encore une fois, il y a beaucoup d'idées reçues sur la nicotine, tout le monde pense que c'est ça qui est dangereux, alors que ce n'est pas ça qui est dangereux. Donc les traitements d'aide, ce n'est pas ça qui est dangereux, c'est la cigarette, c'est la fumée, c'est important de le redire. Et puis les idées reçues aussi sur le fait que quand on prend un patch, on ne peut pas fumer, c'est faux, on peut y aller à son rythme, on peut commencer à faire une diminution progressive et ensuite arrêter ou bien arrêter du jour au lendemain, ça dépend de chacun, il faut savoir qu'est-ce qui est le plus facile pour vous. Et ça c'est important aussi, ce sont des idées qui sont souvent des blocages dans l'arrêt du tabac.
Priorité santé. RFI.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la Journée mondiale sans tabac qui avait lieu hier avec notre invité, le docteur Marion Adler, tabacologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart en banlieue parisienne. Et nous accueillons à présent un deuxième invité puisque nous sommes en ligne avec le docteur Georges Ouédraogo. Bonjour docteur Ouédraogo.
Et bonjour monsieur.
Vous êtes pneumologue, tabacologue au service de pneumologie au CHU Yalgado Ouédraogo au Burkina Faso. Est-ce que le tabagisme est un gros problème de santé publique au Burkina Faso?
Gros problème, peut-être pas, mais problème de santé publique, oui, quand on voit la prévalence de la consommation du tabac dans notre pays.
Et concerne plus fréquemment les hommes, comme c'est le cas généralement ou pas?
Oui, elle concerne plus les hommes que les femmes, mais avec les modes de consommation du tabac, par exemple la chicha ou le narguilé, on voit que les femmes s'intéressent de plus en plus aussi chez nous à la consommation de tabac sous cette forme-là.
Alors, la chicha, le narguilé, vous les mentionnez effectivement en Europe, un peu partout dans le monde, c'est en train de se généraliser. Oui. Pouvez-vous nous rappeler les dangers de cette nouvelle façon de fumer finalement?
Oh, il y a les dangers concernant les maladies infectieuses, je vais commencer par ça, puisque les embouts doivent être individuels, mais dans notre contexte, les sujets se passent un peu les embouts, donc les risques de maladies infectieuses, tuberculose, hépatite, virale, et j'en passe. Et il y a ensuite surtout le narguilé, c'est la forte densité en monoxyde de carbone qui va entraîner au niveau de l'organisme une hypoxie. Au niveau du sang, il y a une faible quantité d'oxygène et il y a aussi d'action au niveau des muscles de l'organisme. Donc c'est le reste, c'est à peu près le même danger que le tabac, d'autant plus que chez nous, on a constaté qu'au lieu de mettre de l'eau, on s'est rendu compte que certains consommateurs mettent autre chose, comme de la bière, comme des liqueurs.
Oh là là.
Vous voyez un peu comment ce mélange va être explosif et entraîner des effets néfastes sur l'organisme.
Docteur Marion Adler, est-ce que les narguilés, les chichas qui se démocratisent, qu'on voit de plus en plus en France, en région parisienne notamment, est-ce que ça vous inquiète, vous, personnellement?
Alors oui, bien sûr. Déjà, je salue Georges.
Que vous connaissez, hein?
Yalgado, oui.
Oui, elle nous a accompagnés.
En tout cas, et il fait un travail fantastique et il faut vraiment reconnaître ça, c'est un accompagnement des fumeurs pour les aider à arrêter qui est fantastique avec toute son équipe que je salue vraiment. Alors, écoutez, la chicha ou narguilé, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui est une fausse impression pour les gens que ce n'est pas dangereux alors que c'est la même chose que la cigarette, c'est le même danger. Quand vous aspirez sur un narguilé ou une chicha, c'est la même chose, hein. Et ben, vous aspirez l'équivalent d'une grande quantité de cigarettes en même temps, donc ce sont les mêmes risques cardiovasculaires, respiratoires, cancer, c'est la même chose, c'est la même fumée. La fumée, elle passe dans de l'eau, dans un liquide qui est aromatisé, ce qui attire évidemment les jeunes, mais la fumée n'a jamais été filtrée par l'eau, ni par quoi que ce soit, donc ce n'est pas moins toxique quand ça passe dans un narguilé. Donc c'est la même chose, c'est la même toxicité, il y a aussi de la nicotine bien sûr, donc il y a la même dépendance très rapidement, et c'est une bonne manière d'inciter les jeunes à commencer à fumer ou d'inciter les femmes à commencer à fumer, malheureusement.
Docteur Ouédraogo, est-ce que les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer viennent facilement vous voir au CHU Yalgado ou est-ce qu'il y a encore des complications et des réticences?
Oh, je crois qu'on a fait pas mal de campagnes depuis 2017 que l'unité a été fonctionnelle. Nous atteignons presque 950 patients que nous suivons à la date d'aujourd'hui. L'unité a un extramuros de l'hôpital, ce qui fait que l'accès géographique est assez facilité et les gens viennent, je dirais, facilement nous rencontrer. Malheureusement, on est limité à la ville de Ouagadougou, mais quand même, nous recevons des patients qui arrivent assez facilement ou orientés par leur médecin parce que présentant déjà une pathologie liée à leur tabagisme.
Et est-ce que le ticket de 2000 francs CFA à payer n'est pas un problème?
Non, pour la majorité, ce n'est pas un problème, peut-être pour certaines personnes, mais ce ticket de 2000 est valable pour 3 mois. Donc, vous voyez, puisque dans les 3 premiers mois de suivi, on a un suivi assez rapproché. Le premier jour, le 8e jour, le 30e jour, le 60e jour et le 3e mois, grosso modo. Donc, ils ont au moins 5 visites pour 2000 francs. Je crois que quand on explique bien, ils acceptent.
Est-ce que les patchs, les nicorettes, les gommes ou les autres substituts sont facilement accessibles au Burkina Faso?
Facilement accessibles, non. Accessibles, oui. Nous avons une quantité limitée de patchs et de gommes au niveau de l'unité. Et nous sommes en train de faire le plaidoyer parce que le coût, donc l'accessibilité financière est difficile au niveau des officines de pharmacie. Et nous sommes en négociation avec les autorités du ministère de la Santé pour que ça rentre dans le cadre des médicaments essentiels et qu'on puisse ôter les 46 plus 18% de taxes puisque c'est considéré comme un produit de parapharmacie. Je crois que le prix va être accessible financièrement dès que le ministère fera la démarche dans ce sens.
Alors du coup, quelles sont les méthodes que vous utilisez, vous, personnellement? Qu'est-ce que vous conseillez?
On utilise presque les mêmes méthodes que Marion là-bas. Nous faisons l'entretien motivationnel, nous essayons d'estimer la dépendance et en fonction de la dépendance, on adapte parce que nous prescrivons les substituts nicotiniques au niveau de l'unité. Donc on n'a que les gommes effectivement et les patchs, donc le reste on n'en a pas, mais ce qu'on a est suffisant pour que environ 20% arrive à arrêter depuis que nous avons commencé l'activité.
Alors là, on parle de la ville de Ouagadougou. Qu'en est-il dans le reste du pays? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tabacologues au Burkina Faso. Je crois que vous êtes 3. Quand on vit en dehors de la capitale, que se passe-t-il? Et qu'on veut arrêter de fumer, comment faire?
Nous avons essayé de faire des formations aux différents agents de santé pour le conseil minimum. C'est poser la question, motiver les patients à arrêter et les référer éventuellement dans le cas où c'est des patients assez difficiles pour la prise en charge. Mais bientôt, avec l'OMS, nous allons commencer le sevrage à partir de la téléphonie mobile, un peu à distance. Et d'ici fin juin, nous espérons que nous pourrions toucher les autres qui sont en dehors de la ville de Ouagadougou et un peu aussi étendre les sites de formation, les sites de prise en charge, autant pour moi, dans les principales villes de région au niveau du Burkina.
Eh bien, écoutez, merci infiniment, docteur Georges Ouédraogo. Je rappelle que vous êtes pneumologue, tabacologue au service de pneumologie au CHU Yalgado Ouédraogo au Burkina Faso. Bonne journée et merci à vous.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Allez, fumer n'est pas une fatalité. Il est possible d'arrêter de fumer. Je crois que c'est le message qu'il est important de faire passer, docteur Adler. Est-ce qu'il y a des petites astuces? Est-ce qu'il vaut mieux arrêter de fumer seul ou en groupe, par exemple?
Écoutez, ça c'est vraiment dépendant de chacun. Alors je voudrais juste revenir, juste parce que c'est important de dire qu'ils ont une unité de consultation de tabac au Burkina et c'est une grande chance et c'est important qu'ils soient aidés en effet par le ministère de la Santé. J'espère qu'ils nous entendront pour aider à avoir l'accessibilité au traitement. C'est quand même grave que les cigarettes soient si peu chères au Burkina et que les traitements ne soient pas accessibles aux patients. Je pense que c'est une aberration de santé publique. Il est temps que ça change.
Alors, le centre que vous mentionnez au Burkina Faso, vous avez collaboré à la formation justement des médecins. C'est une unité de sevrage tabagique au fait qui a été mise en place à Ouagadougou dans le cadre du projet Vosongo, un projet qui contribue à renforcer la politique de prévention et la lutte contre le tabagisme et l'aide au sevrage tabagique. Voilà pour la précision. Donc vous vouliez les encourager.
Et oui, je voulais les encourager les gens d'aller les consulter et vraiment et encourager aussi la politique de santé publique du Burkina pour aider à l'accessibilité au traitement, parce qu'en effet, c'est faisable quand on a les traitements et que les patients peuvent avoir les traitements. Nous, chez nous, ça a été complètement remboursé. C'est ce qui a énormément aidé à diminuer le tabagisme en France. C'est aussi que notre gouvernement, Agnès Buzyn, entre autres, a
ancienne ministre de la Santé.
Le remboursement total. Le remboursement la ministre de la Santé a décidé le remboursement total, comme n'importe quel médicament, des traitements d'aide à l'arrêt du tabac, que ce soit les substances nicotiniques ou la varenicline, qui est le traitement médicamenteux. C'est important de le souligner. Donc, pour votre question, vous disiez, est-ce que c'est mieux en groupe ou seul? C'est
ça
très
dépend.
Individuel, ça. Ça dépend de chacun. C'est-à-dire que je pense que ce qui est le plus important dans ma consultation, la première chose, c'est que je dis aux patients, c'est moi qui vous suis et pas l'inverse. C'est moi qui vais voir en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de vos craintes, en fonction de vos facilités, ce qui est le plus adapté à vous, et je vais vous suivre et vous allez me dire comment ça va, et en fonction, on va diminuer ou pas les traitements. Donc certains préfèrent du jour au lendemain arrêter de fumer, d'autres préfèrent le faire et venir avec leur conjoint. Donc des fois, ils viennent en groupe ou avec leur conjoint en tout cas. Des fois, ils le font à plusieurs au niveau du travail, parce que j'interviens aussi dans les entreprises. Et là, c'est une très bonne idée aussi, parce qu'ils s'encouragent. Et puis d'autres préfèrent venir seuls en consultation et le faire tout seul. Donc ça dépend vraiment de chacun. Ce qui est important, c'est de le faire.
Bon, écoutez, en tout cas, on a énormément de questions qui nous parviennent, notamment via les réseaux sociaux, via le serveur WhatsApp. Mamadou nous a contacté. Mamadou est de Dakar au Sénégal. Il a une petite question pour vous, docteur Adler.
Bonjour Igor, ici c'est Mamadou, je vous appelle de Dakar. Eh bien moi, mon cas, bon, c'est que j'étais fumeur, et j'ai fumé pendant plus de 10 ans. Ça fait maintenant un an que j'ai arrêté de fumer et je vous dis, ça n'a pas été facile pour moi d'arrêter de fumer totalement, puisque plusieurs fois j'ai pris la décision d'arrêter de fumer et plusieurs fois j'ai rechuté. Je vous parie, c'est pas facile. Et vraiment, j'encourage à toute personne qui décide de laisser la cigarette d'être patient et de prendre son temps aussi pour laisser et de prendre la décision, car pour moi c'est la bonne décision. Car j'ai passé plus de 10 ans à fumer. Et puisque moi-même, j'étais revendeur de cigarettes, j'étais vendeur de cigarettes. Donc, j'avais ça en portée de main. Donc, j'ai pu comprendre les autres. Donc, j'ai décidé de laisser la cigarette puisque j'avais tout le temps mal. J'avais tout le temps des douleurs à la poitrine et que ce n'était pas facile pour moi. Voilà. Et donc, lorsque j'ai décidé de rentrer sur Dakar et que ma famille aussi ne concevait pas la cigarette, ma famille n'acceptait pas la cigarette. Bon, donc je me suis dit, bon, là, c'était le moment de laisser définitivement la cigarette et j'ai décidé de ne plus fumer. J'ai une question, s'il vous plaît, j'ai une question. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y aurait une incidence du tabac à long terme, même si j'ai arrêté de fumer? Merci.
Alors, docteur Adler, après ce long exposé de Mamadou, ouais, les conséquences à long terme?
Ben déjà, bravo Mamadou, parce que ça fait un an que vous êtes dans la liberté complète par rapport à la cigarette, c'est très important, et par rapport à votre santé, et vous avez déjà récupéré une bonne partie. Alors, il faut savoir que c'est très très rapide la récupération, donc le bénéfice à l'arrêt du tabac, il est immédiat. Donc, c'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Quand vous arrêtez de fumer, 24 heures après, vous êtes débarrassé du monoxyde de carbone, dont parlait aussi le docteur Georges Ouedraogo. Le monoxyde de carbone, il prend la place de l'oxygène. Donc, une journée après avoir été fumé, vous êtes oxygéné normalement, comme si vous n'aviez jamais fumé. Donc, l'oxygénation, c'est important pour les muscles, pour une endurance physique, pour se sentir mieux et pour avoir plus de force et moins de fatigue. Après un an, il y a déjà une diminution énorme des risques cardiovasculaires. Et donc, très, très rapidement, vous avez un bénéfice. Donc, oui, déjà, Mamadou, vous avez un énorme bénéfice à l'arrêt du tabac. Vous avez récupéré au niveau respiratoire. Vous ne toussez plus. Vous n'êtes plus en diminution d'oxygénation. Vous avez récupéré votre endurance physique et votre capacité physique. Et c'est très important. Et finalement, quand on arrête de fumer, on rajeunit au fur et à mesure parce que fumer, c'est se vieillir artificiellement. Donc, quand on arrête de fumer, on arrête de se vieillir artificiellement. Donc, le bénéfice, il est immédiat. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez chaque année toutes les chances d'avoir récupéré vraiment. Et au bout de quelques temps, très rapidement, vous aurez récupéré comme si vous n'aviez jamais fumé.
Eh bien, écoutez, on va remercier Mamadou. Puis, je vous remercie également, docteur Marion Adler, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. On a une chronique sport juste derrière. Donc, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Très bonne journée à vous. Puis, on vous réinvitera pour répondre encore à de nombreuses questions des auditeurs. Merci, docteur Adler. Et voici venu le moment de notre chronique anti-sédentarité. Nous allons faire un peu de sport en douceur avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Igor.
Vous êtes médecin du sport et de l'équipe de France de judo. Alors pour cette séance, quel est le thème de la séance aujourd'hui, Jean-Marc? Quels sont les muscles que l'on va travailler aujourd'hui?
Eh bien, on va faire deux exercices. On va faire le pont de hanche. Le but, ça va être de travailler les muscles abdominaux et les muscles fessiers. Et puis après, le deuxième exercice, ça sera l'exercice de la planche. Même chose, on va travailler l'exercice de gainage, finalement. Aujourd'hui, on va apprendre à se tenir droit.
Une bonne chose. Alors, de quel matériel avons-nous besoin pour cette séance?
Bien, pas grand-chose, simplement un tapis de sol ou une natte qu'on pourra poser au sol. Bien sûr, il faut être habillé en habit souple. On peut porter des baskets ou être en chaussettes et être sur un sol, bien sûr, qui ne glisse pas.
Bon, bien écoutez, moi, j'ai mis mes baskets, Jean-Marc, donc je vous écoute. Allons-y pour cette séance anti-sédentarité.
Alors, le premier exercice, le pont court des hanches, on va être étendu sur le dos, au sol, les genoux repliés. On va bien contracter ses abdominaux et ses fessiers pour bien se gainer et on va soulever les hanches le plus haut possible, hein, tout en conservant ses épaules au sol. Et puis, on va tenir une seconde et puis ensuite, on va redescendre comme ça, une fois en haut, une fois en bas. Alors, on peut commencer. C'est parti. Et on est bien installé sur le dos, on replie les jambes et 1, on lève le bassin. 2, on redescend. Et 1, on lève. 2, on redescend. 1, on lève, on peut souffler. 2, on redescend, on inspire. 3, on lève, on souffle. 4, on redescend. 5, on lève. 6, on redescend. 1, on lève. 2, on redescend. 1, on lève. On redescend en soufflant. On lève, on inspire, on souffle. On redescend, on inspire. On lève et on redescend. C'est bon pour le premier groupe. On continue. On lève, on redescend pour le deuxième groupe. Puis on lève et on redescend en inspirant. On lève, on souffle. On redescend en inspirant. On lève, on souffle, on redescend. Parfait pour le deuxième groupe. Et enfin le troisième, les plus courageux. On lève en expirant. On descend. On inspire. On souffle. On lève. On redescend. On inspire. On lève. On redescend. On lève à nouveau. On redescend tout en gainant. On lève. On redescend. On lève et on redescend. Et enfin, voilà, bravo à tout le monde. Tout le monde, tous les trois groupes ont terminé. On a fini la première session.
Alors, les trois groupes, Jean-Marc, ce sont donc les débutants qui ne se contentent d'une seule série, les confirmés, on va dire, qui font, eux, deux séries. Et puis, les plus grands athlètes, les plus que confirmés, qui font trois séries de suite, c'est ça?
Exactement. Donc, 10, 15 et 20 répétitions. Voilà. Et on va faire ça une deuxième fois. Donc là, on peut se relâcher, boire un petit peu d'eau, et puis on se retrouve.
Allez, bah écoutez, on vous suit pour le deuxième exercice.
Eh bien, c'est reparti. On lève le bassin et on redescend. On a les jambes repliées. On lève le bassin, on gaine bien et on redescend. On lève, on redescend. On lève. On redescend, on souffle bien en levant. On lève, on redescend. On lève, on redescend. On lève, on reste bien gainé. On redescend. On lève, on redescend. Encore, on lève, on redescend. On lève, on redescend. Bravo pour le premier groupe. On continue pour les intermédiaires. On lève, on redescend. On lève en soufflant. On redescend, on inspire. On lève, on souffle. On redescend, on inspire. On lève, on souffle. On redescend, on inspire. Bravo pour le deuxième groupe. Et puis enfin, les confirmés, on continue. On lève, on redescend. On lève, on expire. Et on redescend, on inspire. On lève, on souffle. On redescend, on inspire. On lève, on souffle. On redescend, on inspire. On lève, on souffle. On redescend, on vient de terminer l'exercice pour tout le monde. Bravo.
Alors, on se repose à nouveau, on souffle un peu. Il est peut-être important de s'hydrater à nouveau en buvant une petite gorgée d'eau. Et ensuite, Jean-Marc, qu'allons-nous faire? Quel est l'exercice suivant?
Eh bien, le deuxième exercice, c'est l'exercice de la planche abdominale. Là, le but, c'est aussi de renforcer ses muscles du dos, ses fessiers, ses abdominaux. On va être cette fois-ci allongé, positionné face au sol. en appui sur les avant-bras et les pointes des pieds. On va décoller son bassin afin d'obtenir un alignement entre les cuisses, le bassin et le tronc. Donc on fait une véritable planche toute droite avec son corps. Et puis on va contracter évidemment fortement ses abdos et ses fessiers pour être bien gainé. On regarde le sol et puis on respire calmement. Et là, on va essayer de tenir 10, 20 ou 30 secondes. 10 secondes pour les débutants, 20 secondes pour les intermédiaires, 30 secondes pour les confirmés. Donc, on va pouvoir commencer l'exercice.
On se met en place tranquillement et puis on va y aller, on vous suit.
Et alors, le premier groupe, top, c'est parti. Allez, on gaine bien, on contracte bien ses fessiers, ses abdos, on respire calmement. Alors évidemment, on sent que ça va un petit peu chauffer. Voilà, le premier groupe. On continue un petit peu pour le deuxième groupe. Voilà, on respire toujours. Voilà, tranquillement. Le deuxième groupe vient de terminer. Et on continue pour les courageux. Voilà, qui tiennent. On contracte bien ses abdos, contracte bien ses fessiers. Hein. On ne lâche pas. Ça y est, voilà, le troisième groupe vient de terminer. Bravo, on peut se reposer.
Parce que ça, c'est un exercice fatigant. Hein. Le gainage, comme ça, ça tire sur tous les muscles.
Absolument. Et on va pouvoir se reposer une minute et on va faire une deuxième série.
Allez, on se détend parce qu'on a vu que ça chauffait un peu les muscles. Alors, on se détend avant de reprendre pour cette deuxième série avec vous, Jean-Marc.
Alors voilà, on se retrouve à nouveau face au sol. On est bien en appui sur les avant-bras, sur la pointe de pied. On décolle le bassin, on contracte bien les abdos et les fessiers. Et c'est parti. On va tenir 10 secondes pour le premier groupe. On respire calmement, on se crispe pas. Juste on contracte tranquillement ses abdos, ses fessiers. On tient. Et voilà pour le premier groupe. On continue, on ne lâche pas. Pour le deuxième groupe, on tient bien. On respire calmement, on regarde le sol. Hein, la tête est orientée vers le bas. On respire tranquillement, on contracte ses abdos et fessiers. Bravo pour le deuxième groupe. On continue, on ne lâche pas pour les confirmer. Voilà, on va faire ces 30 secondes. Surtout, ne soyez pas crispés, ni au niveau de votre nuque. Et voilà, le troisième groupe a terminé. Bah, bravo, une belle séance de sport. Bravo à tout le monde.
Eh bien, écoutez, merci Jean-Marc Sen. C'est vrai que là, on a travaillé en douceur, mais on sent quand même qu'on a travaillé.
Absolument. Bravo encore, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine.
Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Pour les plus courageux, on peut répéter l'exercice plusieurs fois dans la journée, ou c'est déconseillé, Jean-Marc ?
Alors, l'idéal, c'est de faire une fois dans la journée cet exercice, et comme ça, ça permet de réveiller vraiment ses muscles, de se tonifier, de mieux tenir son corps, et comme ça, ça peut permettre d'avoir moins mal au dos, par exemple. C'est un très bon exercice pour éviter d'avoir mal au dos.
Eh bien, écoutez, c'est une très bonne chose. Voilà, il s'agit d'un réveil musculaire, donc on n'en fait pas trop, mais voilà, on se détend le dos et on travaille légèrement les muscles. Merci infiniment, Jean-Marc Sen.
Je vous en prie, Igor.
À la semaine prochaine. Jean-Marc, je rappelle que vous êtes médecin du sport et de l'équipe de France de judo. Bonne journée à vous et à la semaine prochaine. C'est la fin de cette émission préparée comme tous les jours par Assetoussamaké et Ophélie Lassène. À la technique et à la réalisation, c'était Didier Bleu et Didier Chirouze. Demain, vous retrouverez Caroline Paré derrière ce micro au programme l'OMS face aux médecines traditionnelles. Bonne journée à tous et prenez soin de vous. À suivre dans un peu moins de 30 secondes, un nouveau journal sur la radio du monde.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.